voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison d'émission radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Voyager, c'est chercher à comprendre le monde, rencontrer les peuples et découvrir de nouveaux modes de vie. Force de son expérience de l'ailleurs, Charles et sa compagne se sont lancés dans un voyage sédentaire en 2007. Un voyage coloré de diversité végétale en développant la ferme du Bec-et-Loin, un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui souhaitent se former aux techniques paysannes modernes. Rencontre avec Charles qui, avant d'être paysan, est un passionné du vivant.
On pourrait croire que la vie paysanne, c'est très calme et bucolique. D'ailleurs, nous, on l'avait totalement fantasmé. Hein. Moi, je rêvais d'une vie sans équipe à gérer, sans comptabilité, etc. En fait, on est aussi stressé que des Parisiens. C'est-à-dire qu'on est sur plusieurs territoires, entre guillemets. Il y a la ferme, mais il y a aussi beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup d'échanges. On conduit aussi des programmes de recherche scientifique. Mais c'est surtout, on a une activité de formation également. Donc du coup, on est assez éparpillé, bien plus que ce qu'on aimerait, quoi. Notre bonheur, c'est d'être dans les jardins, mais en même temps, il faut quand même faire le reste aussi, donc voilà.
Notre bonheur, c'est d'être dans les jardins. Donc c'est de jardins qu'on va parler. L'émission s'appelle La Voix du Kaizen. Avec moi, Charles Hervé Gruyer, on est dans un endroit, le lieu où tout a commencé au niveau permaculture ici en France.
Pour commencer, je suis né à Paris, mais j'étais un gamin qui détestait la ville, qui détestait l'école, donc plutôt le dernier de la classe. Et j'étais fou de nature, c'est-à-dire je revivais quand j'allais en Normandie avec mon grand-père dans son jardin, etc. Donc l'amour de la nature est très ancré en moi. Et après, je suis devenu éducateur spécialisé et j'ai lancé un projet de voilier école. Donc on accueillait des jeunes ados et on partait avec eux découvrir la planète. Donc c'était des expéditions qui étaient axées sur la rencontre notamment de peuples premiers, parce qu'on était persuadés que ces peuples avaient beaucoup à nous apprendre sur notre rapport avec la nature. Du coup, on a passé une quinzaine d'années à partager la vie de communauté tout autour de la planète, mais beaucoup en Amazonie notamment, et à partager intimement leur vie et à voir comment ces personnes habitaient leur environnement. Quels problèmes ils pouvaient rencontrer, quelles solutions ils trouvaient. Je pense que sur cette question tellement essentielle des rapports entre l'homme et la nature, entre les humains et la nature, ces peuples-là ont beaucoup à nous apprendre, mais la science contemporaine aussi a beaucoup à nous apprendre sur la nature. On en connaît chaque année bien plus sur le fonctionnement de la planète, de la biosphère, et c'est fascinant.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Et la ferme, donc on est dans la ferme du Bec-et-Loin, tu n'étais pas fermier, tu ne viens pas de cet univers-là à la base, c'est vraiment quelque chose que tu as mûri dans tes expéditions, dans tes voyages, au contact de ces peuples premiers ou des scientifiques avec lesquels tu partageais du temps.
Oui, complètement. Moi, encore une fois, j'étais un petit parigot et adolescent, je travaillais avec une famille d'agriculteurs parfois ponctuellement pour les aider à faire les foins et ça me fascinait. Donc, à 15 ans, j'avais rêvé de devenir paysan, mais on m'avait dit, t'es un petit parigot, tu peux pas, il faut être né là-dedans. Mais cette idée m'est revenue de manière de plus en plus lancinante. Parce que déjà, ces communautés des peuples racines qu'on visitait, généralement, avaient une activité agricole. C'était souvent des chasseurs-cueilleurs, mais aussi des cultivateurs. Et quand je voyais cette intimité qu'ils avaient avec la nature, ce rapport sensuel, spirituel, et tellement harmonieux qu'ils avaient avec leur environnement, j'en étais jaloux, c'était à ça que j'aspirais. Mais moi, j'étais qu'un marin de passage, j'étais un peu jaloux de cet enracinement, quoi. Et j'aspirais à vivre une relation extrêmement forte avec la nature. Et en même temps, avec mes filles aînées, il fallait que je reste en France. Donc je me disais, mais comment est-ce que je pourrais vivre ces valeurs des Indiens, qui m'avaient tellement fasciné, mais tout en restant dans notre Occident, dans cette société assez matérialiste, dans laquelle je me retrouvais pas tellement. Et c'est là qu'en quelques années, une sorte de prise de conscience s'est opérée, comme quoi devenir paysan, c'était quelque part la solution pour moi, dans ce sens que ça me permettait de vivre dans la nature sans être coupé du monde dont je suis issu et que je ne renie pas.
Charles, qu'est-ce qui fait que l'homme occidental s'est déconnecté de ce lien à l'environnement et à la planète et à la Terre ?
Ben, c'est une question que je me pose depuis à peu près 40 ans. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des Indiens, notamment aux îles San Blas, à Panama, chez les Indiens Kuna. Et pourquoi est-ce que nous, on a développé un rapport aussi matérialiste, aussi prédateur avec le monde naturel ? Et pourquoi est-ce que ces communautés préservent si bien leur environnement sans vouloir faire un tableau tout noir et blanc, quoi, voilà, parce qu'il faut évidemment apporter des nuances. Moi, je crois que la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'ils ont une vision très spirituelle de la nature. C'est pour eux, ils ont vraiment le sentiment que toutes les formes de vie, en fait, sont une, quoi, sont un reflet d'une vie unique. Et donc, ça crée un lien de fraternité ou de sororité très fort avec les plantes, les animaux, avec le monde vivant. Ils ont vraiment le sentiment que c'est le même principe de vie qui habite les fleurs, les arbres, les oiseaux, les animaux, etc. Et que s'ils portent atteinte à ce monde vivant dans lequel on est immergé, ils vont se détruire eux-mêmes. Alors que nous, occidentaux, on a développé une pensée où l'être humain est à part de la nature et plutôt au-dessus, et que la nature est quelque chose dans lequel on peut puiser à l'infini. C'est fascinant d'observer comment, au jour d'aujourd'hui, on est en train de revisiter ça. Mais ça fait quand même des milliers d'années que notre imaginaire est imbibé de ces concepts. Et c'est en train de changer, parce que si on veut survivre sur cette planète, il faut qu'on revisite complètement notre rapport au monde vivant. On habite la seule planète vivante connue. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé d'autres. Il y en a peut-être d'autres, mais on n'en connaît pas et elles sont de toute manière hors de notre portée, quoi. Donc je trouve ça fascinant d'observer qu'aujourd'hui, partout dans le monde, et dans toutes les formes de culture et sur tous les continents, dans chaque village, il y a des gens qui réalisent que notre bien le plus précieux, c'est la vie. Et que toutes les formes de vie méritent notre respect, notre protection, et sans ça, on disparaîtra.
Et qu'on est complètement interdépendants les uns des autres dans un écosystème. La stabilité et la force d'un écosystème est dans sa diversité.
Exactement. Plus un milieu est... La vie a toujours marché vers plus de complexité. Que ça soit l'évolution du cosmos ou l'évolution de la vie sur cette planète, elle a toujours évolué vers des formes de vie de plus en plus complexes. Et notre civilisation artificialise la planète. C'est-à-dire que on a l'honneur d'habiter la seule planète vivante connue. Et on détruit cette vie, et on l'artificialise, et on érode la biodiversité, etc. Ce qui est un pur non-sens, voilà. Mais je crois que c'est inutile d'enfoncer le clou, on en est de plus en plus persuadé. Après, la grande question, c'est comment on peut faire évoluer nos modes de vie. Parce que c'est facile d'être fasciné par les Indiens, mais quand on est occidental en 2019 en France, comment on fait, quoi, concrètement, pour diminuer notre empreinte écologique, essayer de la ramener à une seule planète, puisqu'on n'en a qu'une.
Et donc, c'est le choix de vie que tu as fait en venant t'installer ici, dans la ferme du Bec-et-Loing. Donc, parle-moi de cette aventure. Comment est-ce que tu as commencé ?
C'est une aventure qu'on vit en famille, hein, donc avec mon épouse Perrine, qui a un rôle tout à fait essentiel dans cette aventure. Perrine, elle était juriste internationale, donc elle était peut-être même encore moins que moi préparée à devenir paysanne. Parce que sa vie précédente, c'est plutôt les gratte-ciel en Asie, petit tailleur, les gros contrats, etc. Mais on était tous les deux dans une quête de sens, et on s'est rencontrés tous les deux en se formant pour devenir psychothérapeute. Donc on a eu quelques années de nos vies où on était thérapeute. Et j'ai pu acheter cette maison en 2003. C'était plus un projet d'autosuffisance. Notre rêve, c'était de nourrir nos enfants avec les meilleurs produits possibles. On a eu deux filles ensemble avec Perrine, donc ça fait quatre petites nanas au total, là, et on rêvait de leur offrir une vie, ce que nous, on n'avait pas eu, quoi, une vie immergée dans le vivant, avec des copains animaux, et manger une alimentation la plus saine et vivante possible. Et puis, c'était tellement passionnant que un beau jour, j'ai dit à Perrine, il faudrait qu'on aille plus loin. et devenons maraîchers bio, parce que comme ça, on va nourrir quelques dizaines de familles de notre belle vallée avec des très bons produits. On verra grandir les enfants de ces familles, nourris avec nos légumes, nos fruits. C'est une belle mission, c'est un bel engagement. Et Perrine a dit « Bon, ok, je vais te donner un coup de main ». Et c'est comme ça qu'on est devenu agriculteur professionnel. Mais professionnel est un grand mot parce qu'on n'y connaissait rien, quoi. On n'avait jamais approché, même de très loin, un établissement d'enseignement agricole. Donc on était dans une naïveté absolue. Mais en même temps, on avait ce projet, cette intention très forte qui était de pratiquer notre métier de paysan dans un respect absolu de la terre-mère. Voilà. Donc on n'avait pas d'ambition ni technique, ni de gros rendement, mais on voulait vivre la forme la plus pure et de respect du vivant. Et donc, on a créé une mosaïque de petits jardins, on a créé des îles-jardins, des forêts-jardins, on a planté des arbres-fruitiers partout, des haies, et on a recréé un paysage presque un peu d'agriculture pré-industrielle, avant le remembrement, avant la mécanisation. On travaillait avec un cheval de trait, et cette ferme est devenue belle. Et la surprise, c'est qu'elle est aussi devenue productive, voilà. Et ça, on ne s'y attendait pas, mais quelque part, au fil des ans, on a pu constater qu'en renaturant notre bout de vallée, eh ben, plus on renaturait, plus la ferme devenait productive, et durable, et diversifiée, etc. Et ça a été un constat heureux, réjouissant, et c'est là un peu que toute l'aventure a démarré, quoi. Et puis la ferme, on a eu beaucoup de difficultés économiques. Les premières années, on n'a rien gagné pendant plusieurs années. Et en même temps, on a été surpris de constater que dès la première année d'ouverture, c'était en 2007, la ferme avait un impact sociétal qui nous surprenait, parce qu'on avait la volonté de l'ouvrir aux visiteurs. Et dès la première année, les gens venaient, revenaient, restaient, se sentaient bien. Les gens étaient heureux, comme nous on l'est d'ailleurs, d'être dans une petite ferme à taille humaine, avec cette intimité entre les plantes, les animaux, les êtres humains. Ça se ressentait, quoi. Et du coup, il y a une sorte de buzz qui a commencé à s'opérer autour de notre ferme. On a eu des prix dont on ignorait même l'existence, etc. Les médias ont commencé à venir et du coup, l'histoire nous a un peu échappé. Je dirais à la fois pour le meilleur et peut-être pas le pire, mais en tout cas, ça nous a déstabilisés parce que la ferme a commencé à devenir connue, visitée, de plus en plus de sollicitations. Donc on nous a demandé d'organiser ces formations, on a commencé dès 2008. Et je dirais que quelque part, la trajectoire de la ferme après, pendant les 10-12 années suivantes, nous a effectivement largement échappé dans ce sens que on s'est retrouvé un peu sur le devant de la scène. On ne l'avait pas vraiment cherché. On l'a assumé parce que on était trop conscient des menaces qui pèsent sur la planète et on se disait, si on peut mettre le doigt sur quelques éléments de réponse, on n'a pas le droit de les garder pour nous. Et ça a été le début d'une très belle aventure au final, mais très épuisante et très prenante, mais notamment la collaboration avec des scientifiques, etc., qu'on n'avait jamais imaginé. Donc quelque part, on voit que la ferme est devenue, sans qu'on l'ait voulu, pionnière en matière d'écoculture, c'est-à-dire une agriculture qui prend la nature pour modèle et qu'elle pose des jalons, elle pose des repères, elle produit des connaissances. Donc elle produit bien plus que des légumes et des fruits, et elle produit aussi des connaissances qui sont utiles à l'humanité d'aujourd'hui. Donc c'est, je dirais quelque part, on est heureux avec Perrine de tout ça.
Tu as utilisé le mot écoculture, c'est la première fois que je l'entends. Donc moi j'associe la ferme du Bec-et-Loin à la permaculture.
Je pense que c'est important peut-être de préciser un peu la sémantique, quoi, les mots qu'on utilise, parce que la permaculture n'est pas une somme de techniques agricoles. La permaculture, qui a été formulée dans les années 70 par Bill Mollison et David Holmgren en Australie, c'est une tentative d'habiter durablement la planète, d'imaginer une culture permanente. Donc, en prenant la nature pour modèle. Alors, ça peut s'appliquer aux jardins ou aux fermes, mais tout autant aussi à des villes ou à des entreprises ou à des communautés, etc. Voilà, l'habitat, c'est vraiment une approche globale, holistique, qui prend tout en compte. Notre rapport avec la nature, la manière dont on se nourrit, mais aussi effectivement l'habitat, les énergies, l'argent, la personne humaine, la gouvernance, etc. Donc c'est vraiment une approche holistique. Et paradoxalement, la permaculture avait peu croisé l'agriculture professionnelle et notamment l'agriculture bio, et que ce soit en France ou aux États-Unis ou en Australie, dans le monde anglo-saxon, qui était quand même le berceau de la permaculture avait peu pénétré l'agriculture professionnelle et elle avait plutôt été appliquée, ces concepts avaient plutôt été appliqués dans la sphère des jardins privés ou associatifs, voilà. Et je dirais avec des résultats plus ou moins heureux en termes de productivité. Parce que souvent, elle était mise en œuvre par des gens qui n'étaient pas du tout issus du monde agricole et qui recherchaient une harmonie avec la nature, mais sans forcément atteindre une grande productivité.
Mais c'est pas ce qui est recherché dans la permaculture, la productivité.
Non, exactement. Mais c'est plutôt ce qu'on recherche dans la démarche permaculturelle, c'est plutôt habiter durablement la planète, donc la résilience, la durabilité, etc. Mais il faut quand même aussi obtenir une récolte. Et c'est vrai que du coup, les rares personnes qui connaissaient la permaculture, enfin les rares agriculteurs ou agronomes qui connaissaient la permaculture, on avait souvent une assez mauvaise image en termes de rendement agricole, parce que ça faisait assez amateur, voilà, sans porter de jugement. Et nous, quand on a rencontré en 2008 les concepts de la permaculture, ils nous ont fascinés. Ça nous a parlé au cœur, parce que c'était exactement ça qu'on recherchait. Et quelque part, c'était un peu comme si on avait intuitivement mis en place beaucoup d'éléments de la permaculture, un peu comme si on avait déjà mis sur la table beaucoup de morceaux d'un grand puzzle, mais il nous manquait la vision globale, quoi. Et la permaculture proposait cette vision globale. Et on voyait comment on pouvait aller plus loin, orienter nos efforts, les canaliser, avec notamment ces outils de conception, de design que propose la permaculture. Mais en même temps, au bout d'un an ou deux, on s'est aperçu que, d'un point de vue des techniques de production agricole, c'était assez pauvre. Et que nous, en tant qu'agriculteurs professionnels, aspirant à vivre de notre métier, de la vente de nos légumes, de nos fruits, etc., eh ben, on restait un peu sur notre faim. Et c'est là qu'on a commencé à une immense enquête pour chercher des techniques d'agriculture naturelle qui rentreraient dans notre propos. Donc je dirais qu'ici, au Bec et Loing, la permaculture, c'est un peu le logiciel global qui permet d'assembler toutes ces sources d'influence diverses et variées. Mais en même temps, on a pioché à beaucoup de sources, notamment dans les pays du Sud, notamment dans le passé. Mais on est également extrêmement connecté au monde de la recherche scientifique contemporaine. Et on cherche à faire une synthèse. En quelque sorte, on cherche à prendre le meilleur des civilisations passées, et pas que notre monde occidental, on va aussi beaucoup puiser dans les pays du Sud, et également le meilleur de notre époque. On n'est pas en guerre contre notre époque, on pense que notre époque est riche de beaucoup d'opportunités, et on cherche à faire une synthèse pour essayer d'imaginer des solutions pour le monde de demain, pour un monde post-pétrole, post-industriel, des solutions qui nous permettraient de subvenir aux besoins des êtres humains, tout en réparant la planète, parce qu'on l'a trop détruite. On ne peut pas se contenter de faire juste moins de mal. Et on a découvert, chemin faisant, que on pouvait, dans un même élan, régénérer le milieu qu'on habite, et je dirais même rapidement et efficacement, et en même temps atteindre des niveaux de productivité qui semblaient impensables et sans pétrole. Et c'est ça qu'on appelle l'écoculture, en fait. C'est une forme d'agriculture qui s'inspire de la nature et qui intègre tous les acquis de l'agroécologie et de la permaculture. Donc écoculture, c'est une forme d'agriculture, mais c'est une agriculture qui s'inspire du monde vivant, ce qui n'est pas du tout le cas de l'agriculture dominante aujourd'hui.
Mais donc l'enjeu, c'est vraiment en tant qu'humain d'avoir une action bonifiante sur les écosystèmes, sur l'environnement qui est là, proche de nous. Donc cette compréhension, le comprendre et comment le bonifier, comment réamener la vie, comment restructurer les sols.
Exactement, c'est-à-dire que c'est prendre soin du vivant et prendre soin de la terre... que j'aime bien appeler la terre-mère, notre terre nourricière. Et il y a quelque chose de profondément thérapeutique là-dedans, parce qu'on prend soin de la terre, on prend soin de toutes les créatures, des microbes, des vers, enfin on cherche à leur assurer les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent s'épanouir, pour que la vie puisse s'épanouir sur ce petit territoire qui nous est confié l'espace de notre vie. Et en même temps, la terre-mère prend soin de nous.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Dès 2009-2010, la ferme a été visitée par des agronomes venant même du monde entier, progressivement, du Japon, des États-Unis, d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. Tous ces visiteurs ne nous riaient pas au nez, ils étaient frappés par la productivité des jardins. Et de là est née l'idée de poser quelques repères technico-économiques pour savoir est-ce que cette approche est viable pour un agriculteur. Parce qu'entre-temps, on s'était rendu compte que si on voulait que des pratiques plus vertueuses essaiment, il fallait démontrer leur efficacité. Il fallait que les gens puissent en vivre. Sans ça, ça resterait un hobby de nantis, quoi. Et puis nous-mêmes, on était dans le rouge plus, et on avait notre famille à faire vivre, et il fallait qu'on atteigne une performance économique, quoi. Au début, on s'en foutait, très honnêtement, mais là, nos économies avaient été bouffées, on était dans le rouge, donc il fallait qu'on devienne efficient. Et les gens nous disaient, mais il y a vraiment, on pressent qu'il y a beaucoup de, qu'il y a une productivité élevée dans vos petits jardins cultivés complètement à la main. Et de là est né le premier programme de recherche qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelait maraîchage biologique permaculturel et performance économique. Et qu'on a mené pendant 40 mois avec AgroParisTech et l'INRA. Et on a relevé des dizaines de milliers de données. C'était l'étude la plus approfondie jamais menée dans notre pays sur le maraîchage bio. Et il en est ressorti des résultats stupéfiants. C'est-à-dire que 1000 mètres carrés cultivés totalement à la main, sans énergie fossile et sans intrants, je dirais, autres que du fumier ou des intrants totalement naturels, eh ben, on arrivait à un niveau de productivité qui était de 55 000 euros de légumes commercialisés. Et c'est même pas la production totale, c'est ce qui avait été effectivement commercialisé. Alors que la production moyenne du maraîchage bio en France avec un tracteur est de l'ordre de 30 000 euros l'hectare. C'est-à-dire on a d'un côté un tracteur, 30 000 euros l'hectare, et un milieu forcément très artificialisé, puisque le tracteur, même si le conducteur est bio, agresse l'environnement. Et là, on avait un dixième d'hectare qui produisait davantage, quoi, voilà. Et tous les résultats confirmaient le fait que, contre toute attente, une petite agriculture pratiquée à la main, très soignée, sur une toute petite surface cultivée, mais cultivée de manière extrêmement intensive, pouvait atteindre des niveaux de productivité stupéfiants et une performance économique supérieure à celle de plus grandes fermes motorisées, etc.
Donc il est vraiment là le message, parce qu'aujourd'hui il y a ce retour à la terre, de plus en plus de jeunes font cet exode rural dans le sens inverse, hein, retournent dans la campagne et cherchent justement à s'installer d'une manière durable, générer un modèle économique. Donc toi tu prouves que c'est tout à fait possible de faire ce chemin, quitter la ville, retourner à la campagne, mettre les mains dans la terre, restructurer le sol et en vivre.
On a prouvé que c'était possible, ce qui ne veut pas dire que c'est facile. Et beaucoup de gens se posent la question du sens de leur vie. On en a marre d'être dans des bureaux, dans les embouteillages, dans le métro. Et du coup, d'après les institutions du monde agricole et notamment de la bio, assez rapidement, 80% des projets de création de fermes maraîchères en France se sont inspirés de ce modèle de micro-ferme permaculturelle qu'on avait un peu préfiguré ici. 80%, c'est colossal. Donc c'était un raz-de-marée dans les établissements d'enseignement agricole, de gens qui disaient, mais nous on ne veut pas apprendre les tracteurs, les produits phytosanitaires, tout ça. On veut créer une micro-ferme permaculturelle, travailler à la main. Alors ça a créé beaucoup de frictions. Il n'y avait quasiment pas de référence, quasiment pas de lieu convaincant, quasiment pas de personnes formées, de personnes ressources, il n'y avait pas de support pédagogique. Et du coup, on se ressentait même un peu une petite part de responsabilité, parce que on s'est dit, on a fait rêver des gens sur un modèle, mais on l'a pas suffisamment décrit, ni étudié. Et si on construit un gratte-ciel qui monte à 40 étages à toute allure, et que les fondations sont pas là, ça peut faire un flop, quoi. Et les gens peuvent se planter et perdre leurs rêves, leurs économies, divorcer, etc. Alors, on a travaillé encore plus dur pour mener davantage de programmes d'études, et on en a mené peut-être 5 ou 6 ou 7 depuis, pour essayer de mettre à portée du plus grand nombre tout ce qu'on avait pu apprendre. Et un grand nombre de données scientifiques auxquelles les porteurs de projets n'ont pas accès individuellement. Et nous, on a eu la chance de pouvoir travailler pendant 6 années avec une équipe merveilleuse pour créer cette somme sans équivalent. Donc le bouquin, je fais ma petite séquence promo, mais s'il y en a qui s'intéressent, il s'appelle « Vivre avec la Terre » et il est publié par Actes Sud.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Quelles sont les difficultés que rencontrent tous ceux qui font ce chemin de retour à la Terre que tu observes autour de toi? Les premières difficultés auxquelles on va devoir faire face?
C'est honnêtement, c'est un parcours du combattant insensé de devenir agriculteur en France aujourd'hui. C'est aberrant tellement c'est difficile.
Mais tu dis agriculteur, pas paysan.
Oui, moi je préfère le terme de paysan, mais peut-être que quand on va voir les chambres d'agriculture, etc., il vaut mieux utiliser agriculteur pour avoir l'air pro, parce qu'il faut montrer patte blanche, on ne devient pas agriculteur comme ça. Nous, on a eu la chance de passer un petit peu entre les mailles du filet, mais ça a été quand même très difficile. La première difficulté, c'est d'accéder au foncier. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit la difficulté essentielle. En fait, on a beaucoup d'offres de fonciers qui nous arrivent et qu'on redispatche dans notre réseau. Et par contre, donc beaucoup de gens sont prêts à offrir ou à proposer du foncier. La denrée rare, c'est des maraîchères et des maraîchers formés. Il y a beaucoup de fermes ou de terrains potentiellement cultivables cherchent des maraîchères ou des maraîchers formés selon ces nouvelles pratiques permaculturelles.
Toi, tu as montré que dans la formation, tu pouvais aussi l'acquérir par l'expérience, non?
Être maraîcher, maraîchère, c'est un métier très complexe. C'est le métier le plus difficile à l'agriculture. Il faut à peu près 5 ans de pratique intensive pour être vraiment au point, quoi. Mais c'est comme tous les métiers, journaliste, informaticien, prof, toubib. Tous les métiers nécessitent plusieurs années d'apprentissage. Et c'est là peut-être une première source d'erreur et de plantage, c'est que les gens s'imaginent qu'ils vont devenir jardiniers, maraîchers, comme ça. Et ils n'évaluent pas assez la masse de compétences qu'il faut acquérir. Surtout dans notre approche qui prend la nature comme modèle, parce que notre approche est très low-tech, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de gros équipements compliqués et coûteux, on n'a pas besoin de gros investissements dans des grosses machines, etc. Mais on a besoin de davantage de connaissances sur la nature et sur le cycle des plantes, etc. Donc, il faut consacrer, je dirais, plusieurs années à se former. Et nous, ce qu'on conseille, c'est de suivre les formations d'État, par exemple le brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, le fameux BPREA, mais qui n'enseigne pas notre approche bio-intensive du Bec-et-Loin. Et donc, nous, on peut accueillir ici quelques dizaines de personnes chaque année, quelques centaines, mais il y a pour l'instant peu de formations équivalentes. D'où l'intérêt aussi de ce bouquin, parce que il contient beaucoup plus d'infos que ce qu'on est capable de donner dans nos formations. Après, il faut suivre des stages avec dans des fermes et des stages de longue durée, idéalement une année complète pour voir les 4 saisons. Et je dirais que si on prépare bien son parcours, en 2, 3 ans, on peut lancer sa ferme. Mais ça se fait pas en claquant des doigts.
Mais c'est possible, on peut trouver le modèle économique, il y a une demande derrière, la société civile est là, est prête à acheter des légumes en bio un peu plus cher, produits d'une manière respectueuse.
On vend pas nos légumes plus chers, hein. Les gens sont pas prêts à payer plus cher, hein, sauf de rares exceptions. Ça a été notre grande démarche ici, on était dans une quête d'efficience et d'efficacité économique, parce que justement on peut pas attendre que la société change et soit prête à payer plus cher sa nourriture. On sera mort avant, quoi, économiquement. Donc, on a cherché à être performant dans le contexte d'aujourd'hui. Et oui, c'est possible, mais il faut devenir bon, et c'est du boulot, quoi. Et en même temps, c'est un boulot génial et magnifique parce qu'on prend soin du vivant. Donc, c'est extraordinairement gratifiant et passionnant. Et je te dirais qu'avec Perrine, on est 7 jours sur 7 dans nos jardins. C'est notre bonheur, quoi. Mais c'est difficile, voilà. Mais c'est réalisable. Il vaut mieux savoir que c'est difficile pour se préparer et s'armer même mentalement, prendre soin de soi aussi pour être capable de surmonter les épreuves qui sont surtout concentrées durant les 3 premières années. Quand on n'a pas de réseau commercial, on n'est pas encore très efficace d'un point de vue technique, le sol n'est pas encore très fertile, il est plein de graines d'adventices, etc. Donc les premières années, on cumule les handicaps. Et puis, si on franchit ce seuil, eh ben, ça va mieux après. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu disais, il faudrait que la société accompagne beaucoup mieux les paysans d'aujourd'hui et de demain, parce que ils remplissent une mission essentielle. On peut se passer de téléphone, on peut se passer de machine à laver, même de voiture, mais pas de manger. Donc, il faut mieux soutenir nos paysans, mais ça nécessite un engagement de toute la communauté et en premier lieu des consommateurs, pour faire le choix du local, faire le choix du bio et soutenir la ferme qui se crée à sa porte.
Charles, et quel est l'avenir du Bec-et-Loin? Comment est-ce que tu imagines ici la ferme dans 5 ou 10 ans?
Alors nous, on n'a qu'une seule ambition, c'est de rester des petits paysans. Voilà. Je pense qu'on n'a pas pris la grosse tête. On est heureux dans nos jardins, on y est 7 jours sur 7. On aspire à refermer progressivement la ferme, parce que je crois que maintenant tout est dans ce bouquin, Vivre avec la Terre. Donc tout ce qu'on était en capacité de partager, les gens ne sont pas obligés de venir nous voir. Tout est là, voilà. Et on voudrait progressivement arrêter nos formations et se recentrer sur notre métier pour continuer à progresser. Et puis si on continue à apprendre des choses, bah, j'espère que ça sera le cas. De temps en temps, on le partagera sous forme de films ou de rapports scientifiques ou d'un nouveau bouquin. J'en profite pour dire qu'on a un site internet sur lequel tous les rapports de nos programmes scientifiques sont en ligne. On a fait quelques vidéos didactiques aussi qui sont en ligne, etc. On a pu mettre au point des outils qui sont en open source, notamment la Campagnole. On partage tout ce qu'on peut partager, mais on aspire à rester des paysans et pas des bêtes de scène, quoi. Voilà, c'est pas notre tasse de thé du tout.
Charles, merci beaucoup.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.